Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute.
Ici Lionel Levac. Il n'y a pas de biodiversité possible sans les agriculteurs et l'agriculture ne restera possible qu'avec la biodiversité. Aussi, la juste rétribution du travail des agriculteurs est essentielle à la pérennité des productions vivrières, qui doivent par ailleurs être de plus en plus pensées et organisées en fonction des besoins des régions du monde et non pas dans une conception de globalité qui laisse pour compte beaucoup trop de populations en quête d'alimentation, malgré les forts volumes de la production mondiale. Les agriculteurs ont véritablement marqué le colloque international « Agriculture, biodiversité et sécurité alimentaire, des engagements aux actions » qui se tenait à Québec. Le colloque avait été organisé conjointement par l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. J'ai assisté à ce colloque. Voici mon reportage. Un colloque d'un très haut intérêt où les interventions auraient toutes mérité qu'on y réfère. J'ai cependant concentré le présent reportage sur la reconnaissance générale qui a été faite par l'ensemble des participants du rôle incontournable que doivent jouer les agriculteurs de partout dans le monde dans le maintien ou la restauration de la biodiversité, et aussi sur le fait que le colloque reconnaît sans hésitation que les agriculteurs ne sont pas bien payés et que l'on doit réformer le commerce mondial agricole. On l'a déjà dit, certes, mais cette fois, c'est plus catégorique que jamais. Avec d'autres dignitaires, Jonathan Paquin, directeur de l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval, lançait le colloque, véritable chef-d'œuvre d'interdisciplinarité.
Notre colloque international est d'ailleurs, à mes yeux, la plus belle illustration de ce que nous entendons par interdisciplinarité. Pendant 3 jours, des experts venus de plusieurs disciplines et de plusieurs continents débattront de thématiques communes, soit l'agriculture, la biodiversité et la sécurité alimentaire. Et donc, comme directeur de l'école, je suis très, très heureux de me joindre à nos nombreux collègues pour cette conférence internationale.
Satisfaction du président de l'Union des producteurs agricoles, Martin Caron.
Bien souvent, les grands engagements internationaux se prennent sans consulter les agriculteurs, ni même comprendre ou évaluer l'impact de ces engagements sur leur travail et donc sur la sécurité alimentaire mondiale. Il en ressort des incohérences dans l'applicabilité de ces engagements internationaux. Je tiens donc à remercier le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, la FAO et le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique pour leur ouverture à associer les agriculteurs dans la réflexion. Si les pratiques agricoles sont adéquates, l'agriculture est la première alliée de la biodiversité, elle la préserve et même la génère. Au Québec, nous avons mis en place différents projets porteurs par et pour les agriculteurs avec des résultats concrets, mesurables et durables. Si les producteurs sont convenablement accompagnés et financés, ils font partie de la solution. La biodiversité au champ est aussi source de résilience, notamment face aux effets des changements climatiques. C'est une relation gagnante-gagnante qu'il faut entretenir et dans laquelle il faut investir.
Le ministre québécois André Lamontagne avait noté qu'à l'occasion de la COP26 à Montréal, les agriculteurs n'étaient pas partis aux discussions. Cette fois, c'est différent, et il se fait fort de souligner que son gouvernement les soutient dans la voie de la biodiversité.
On mise davantage sur la carotte que sur le bâton pour provoquer le changement, promouvoir l'adoption de pratiques agro-environnementales plutôt que de les imposer. Reconnaître les efforts déjà réalisés par nos champions et inciter les plus hésitants à faire le saut. Depuis 2022, ce sont plus de 119 millions de dollars que nous avons commis pour rétribuer les pratiques agro-environnementales à la ferme, et ça fonctionne. On n'a qu'à penser à des aménagements que des agriculteurs ont mis en place et qui participent au maintien de la connectivité écologique du paysage, servant de refuge pour la faune auxiliaire, comme les pollinisateurs, les espèces menacées ou vulnérables, et permettent aussi la séquestration du carbone, ou aux pratiques qui visent à améliorer et à conserver la santé des sols, telles que l'inclusion des cultures pérennes dans la rotation des cultures et la protection des sols hors saison par des cultures de couverture et qui permettent la captation du carbone et une réduction des apports de matières fertilisantes azotées. Alors, le colloque auquel vous êtes conviés va permettre d'aller encore plus loin dans le choix des actions à mettre en œuvre pour faire avancer nos pratiques agro-environnementales et pour stimuler la biodiversité en agriculture. Et surtout, pour assurer une sécurité alimentaire au plus grand nombre, et ça, pour les générations à venir. On en a la responsabilité.
Une feuille de route a été publiée à la fin du colloque. Ibrahima Koulibaly, président de l'Organisation panafricaine des agriculteurs, est l'un des trois coprésidents du colloque.
Nous avons parlé de politiques et d'instruments de politique à différents niveaux qui favorisent la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture. Nous avons parlé aussi surtout des chaînes de valeur, de l'importance d'une alimentation diversifiée, nutritive, produite par les terroirs. Nous avons parlé des liaisons, de la nécessaire liaison entre les producteurs et les consommateurs. Nous avons parlé des bénéfices partagés, nous avons parlé d'engagement, nous avons parlé de politique et des difficultés d'aller à échelle sur la base des expériences pilotes qui sont mêlées un peu partout dans le monde. Nous avons parlé de la faiblesse des financements pour la préservation de la biodiversité. Mais aussi et surtout, nous avons présenté nos expériences riches, diverses, ancrées dans les territoires, pilotées par nos organisations, qui façonnent les paysages, réduisent l'utilisation des biopesticides, soutiennent la transition agroécologique, permettent de conserver la biodiversité cultivée. À travers ces expériences, nous avons montré que nous faisons du plaidoyer, du lobbying sur cette question très cruciale de la conservation de la biodiversité pour notre alimentation et notre agriculture auprès de ceux qui décident. Ce qui est extrêmement important, c'est que nous sommes venus de 39 pays. C'est presque l'Organisation des Nations Unies. 39 pays sont représentés ici. Mais ce qui a été surtout relevé, c'est que pour une fois, il y a une très forte participation des agriculteurs. Nous sommes les détenteurs, nous sommes ceux qui conservent cette biodiversité. Donc c'est extrêmement important que quand on discute de cela, nous soyons fortement représentés. Donc ça c'est quelque chose qui mérite d'être souligné, qui est une innovation extrêmement importante. Et nous avons eu des discussions très très passionnées, cordiales, mais surtout très constructives. Je pense qu'il n'y a presque pas eu de contradiction entre nous. Et la diversité et la richesse des expériences a été quelque chose de très, très visible. L'expertise des scientifiques, des agriculteurs, des praticiens, des ONG et autres se sont mis ensemble durant ces deux jours. À la fin de ces deux jours, je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait. Nous avons travaillé sur ce document dynamique, évolutif, parce qu'il a été remis au goût du jour sur la base de nos propositions, amendements et commentaires. Et donc, ce qui reste à faire, c'est une demande auprès de mes pairs paysans, mais aussi auprès de tous ceux qui sont venus. Nous devons nous approprier ces documents. Nous devons en faire un outil de travail. Nous devons l'amener très haut pour que ça puisse contribuer à notre objectif commun de préserver cette biodiversité qui n'a pas de prix pour notre futur commun à tous.
François Pitou, représentant de la Suisse à la FAO, aussi vice-président du colloque.
La feuille de route, il ne s'agit pas d'un document qui est, je dirais, inscrit dans le roc, mais c'est vraiment un document qui est là pour nous aider tous à atteindre l'objectif de pouvoir développer un rapport équilibré et juste entre biodiversité et agriculture. Et le but, c'est justement de voir comment on peut faciliter la mise en œuvre du cadre mondial pour la biodiversité qui a été adopté en 2022 à Montréal et la relation entre biodiversité et milieu agricole. Rappeler un peu l'importance des interactions entre agriculture et biodiversité, et puis je pense que c'est quelque chose qu'on savait peut-être certainement ou qu'on soupçonnait avant de venir ici, mais qui est ressorti clairement des discussions, c'est l'interdépendance majeure entre agriculture et biodiversité. Pour reprendre un slogan qu'on avait développé pour la décade internationale de la biodiversité, qui est déjà très ancienne, c'était 2000-2010, je crois, l'agriculture a besoin de la biodiversité et la biodiversité a besoin de l'agriculture. après la discussion qu'on a eue ces deux derniers jours, on peut même aller plus loin en disant l'agriculteur a besoin de la biodiversité et la biodiversité a aussi besoin de l'agriculteur. Donc c'est vraiment pour montrer l'interdépendance majeure entre agriculture, production et biodiversité. Ensuite, la question de l'importance de l'agriculture durable par rapport au développement durable en général. L'agriculture, ou disons plutôt l'alimentation, se trouve au centre du développement durable. On le sait tous, sans alimentation, on n'est pas là. Donc si on n'arrive pas à avancer vers une agriculture, on parle de la transformation vers des systèmes agriculture plus durables, ça sera vraiment très difficile d'atteindre tous les objectifs du développement durable.
Et François Pitou partage l'avis que les agriculteurs doivent être mieux traités.
On revient sur cet élément, je pense, qui est vraiment ressorti, la nécessité de la reconnaissance et de la valorisation du rôle et de l'expertise des agriculteurs et également des communautés locales et autochtones. Le deuxième point qui est important, rarement abordé dans les discussions internationales, c'est justement le juste revenu des agriculteurs. L'agriculteur doit pouvoir tirer de son travail un revenu qui lui permet premièrement de vivre décemment, mais qui lui permet aussi d'investir dans le futur. Et ça, c'est toute la discussion sur la place du producteur dans la chaîne de valeur, la redistribution de la marge le long de la chaîne de valeur. C'est des thématiques qui commencent à se développer au niveau international, mais qui sont très difficiles à aborder, mais qui sont centrales. Si on ne trouve pas une réponse à cette question, si on n'apporte pas une réponse solide et durable à cette question, on n'arrivera pas à atteindre les autres objectifs. D'autres éléments qui ont été relevés ici, par exemple aussi le rôle levier des consommateurs et des autres acteurs de la chaîne alimentaire.
On a beaucoup insisté sur la nécessité d'aborder globalement la biodiversité. Eliane Oubali-Joro, directrice du Centre international de foresterie.
Je trouve que c'est vraiment important de vous considérer que le côté protection et conservation de la biodiversité, surtout dans les zones les plus vulnérables, représente vraiment un intérêt incroyable, surtout les forêts et les écosystèmes critiques qui sont vraiment très importants. Nous savons que 2,8 milliards de personnes sur la planète dépendent des forêts pour supplémenter leur alimentation et pour différents services. Cette interface agriculture forêt, biodiversité et sécurité alimentaire, pour nous, à Sea for Your Craft, représente un enjeu incroyable. Et nous nous engageons à travailler à trois niveaux, d'avoir des actions qui ont une intégrité carbone élevée, intégrité biodiversité élevée, et aussi intégrité au niveau action des populations locales, au niveau du développement communautaire. Nous nous assurons que des revenus des agriculteurs et nous assurons des actions envers la biodiversité en même temps. L'entrée pour nous, c'est les arbres. C'est comment est-ce que les arbres peuvent être des points d'entrée pour créer des bénéfices multiples. Les arbres ont un effet incroyable. Rajouter des arbres dans les écosystèmes agricoles réduit l'érosion de plus de 50% et augmente la séquestration de carbone de plus de 20%.
Impossible de dissocier les différents éléments qui constituent la biodiversité. Pense également Ismaan Elouafi du Centre international de recherche agricole.
Soit on parle de biodiversité, soit on parle d'agriculture, soit on parle de changement climatique. Et on est en quelque sorte en train de s'infliger nous-mêmes ces divisions entre ces secteurs qui sont dans la nature ensemble. Il n'y a rien qui est séparé dans la nature. Et même côté espèce, ce n'est pas juste un arbre, ce n'est pas juste un animal, c'est des microbes, c'est des micro-organismes. C'est vraiment la nature et dans la cohabitation des espèces. Et nous, comme humains, on est très, très responsables pour ce qui se passe dans cette planète. Et pour moi, ça, c'est très important. Alors, je vous remercie vraiment de mettre ensemble agriculture, biodiversité, sécurité alimentaire et tout ça. Surtout, on doit travailler au niveau système. La différence entre les dernières 30 ans et les prochaines 30 ans est très importante. Dans les dernières 30 ans, on avait beaucoup de problèmes de famine. Alors, la révolution verte nous a aidé beaucoup. On a pu sauver 1 milliard de personnes de faim. On l'a fait de manière où on a beaucoup augmenté les inputs dans l'agriculture. Et c'était nécessaire peut-être. Et c'est ce qu'on savait faire le mieux. On ne savait pas mieux. Là, en allant 2020 à 2050, est-ce qu'on doit faire la même chose? Non, certainement pas. Surtout avec notre reconnaissance de l'interdépendance entre la biodiversité, l'agriculture, le changement climatique et le fait qu'on doit survivre cette planète et on doit la conserver. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire les choses différemment. Et là, la simplification est très importante. On doit, comme scientifique, simplifier les choses et dire aux gens, voilà, la nature le fait. On doit comprendre comment la nature le fait, on doit le faire la même chose. On arrête de séparer les choses. On dit dans la FAO qu'on doit augmenter la production de l'agriculture par 70%. Ce n'est pas vrai. Et je le dis maintenant parce que je le comprends mieux, bien que c'est générique. Alors, ce qu'on doit, c'est en fait augmenter la production dans certaines parties dans le monde, dans l'Afrique, dans l'Asie du Sud. C'est là où on doit le faire. Le reste ne doit pas le faire. Et là, on a des données, il y a des publications de IFPRI qui le montrent très bien, où la Chine, par exemple, ne doit pas produire plus. Ils doivent augmenter entre 2020 et 2050 2,7% de leur productivité. Parce qu'ils ont déjà maximalisé, mais vous comprenez ce que je veux dire, qu'ils sont déjà au maximum. L'Afrique doit augmenter de à peu près 80% sa productivité. Mais il ne doit pas le faire sur la base de mettre plus d'input. C'est la technologie. On a besoin de plus de technologie en Afrique. On ne l'a pas eu pendant les dernières années. L'Asie, il a besoin aussi d'augmenter, mais c'est à peu près 40%. Alors la différenciation agroécologique continentale doit nous donner une manière de faire les choses d'une manière plus intelligente et qui reconnaît cette interconnexion entre tout ça.
Et pour Kent Nadosi, secrétaire du traité international sur les ressources phytogéniques, encore une fois, le rôle des agriculteurs est crucial.
I think they've been so far neglected in the range of activities and discussions that are going in the international arena.
La biodiversité est notre assurance de survie, affirme quant à lui Braulio Ferreira de Souza Dias, directeur de la conservation au ministère de l'Environnement du Brésil. Un pays qui a encore beaucoup à faire, dit-il lui-même.
To adapt to these changing conditions geographically and climatically, investing in diversity has proven to be the best solution. So that's nature's answer to this problem. So we could say biodiversity is an insurance to be able to cope with climate change. So if we keep destroying...
L'ancien président de l'UPA, aujourd'hui président d'Agricor, un regroupement international d'agences de soutien à l'agriculture, parle du besoin de réforme.
Le modèle économique en agriculture n'arrivera pas à protéger la biodiversité parce qu'un ventre affamé ne se soucie pas de la biodiversité et des changements climatiques. Il cherche d'abord à se nourrir et il y a 25 % de la population mondiale qui ne mange pas suffisamment. Parmi les changements à faire, une meilleure planification de la production agricole à l'échelle mondiale. On sait ce que ça prend pour nourrir 8 milliards de personnes. On ne planifie pas la production. On laisse les agriculteurs du monde entier déterminer qu'est-ce que je fais cette année, est-ce que j'en produis plus. Je vais vous le dire, on veut tous produire plus. C'est humain, ça. On est des gens qui sont en affaires, on veut tous produire plus. On ne veut pas produire moins. Et on veut produire plus parce que souvent, nos marges bénéficiaires diminuent d'année en année. Et vous avez vu les agriculteurs du monde entier cette année, ou presque, dans les rues avec leurs tracteurs, parce que les marges bénéficiaires diminuent d'année en année, malgré qu'on produise plus. Le modèle ne fonctionne plus. Et vous nous demandez de protéger la biodiversité, de changer nos pratiques, de remplir des rapports, de faire des déclarations, dans un contexte où les marges bénéficiaires diminuent d'année en année, malgré qu'on produise plus. Alors, il faut revoir le système économique alimentaire si on veut réintroduire une feuille de route qui va assurer à long terme la sécurité alimentaire et la protection de la biodiversité. Voilà, ce sont mes mots sur aujourd'hui.
Merci beaucoup, M. Groslon, pour cette contribution. Je pense que c'était la parfaite contribution pour replacer ça dans le contexte beaucoup plus global et de l'importance de force du marché, le rôle du force des marchés et la nécessité d'avoir une révision du système ou du modèle économique alimentaire au niveau global. Je crois que c'est ce genre de choses qu'il est très difficile de faire passer dans des forums comme la FAO, je peux vous dire, parce que je parle d'expérience comme représentant d'un pays. Lorsque vous abordez ce genre de questions, vous avez un blocage immédiat. Et le défi, là, c'est comment aborder cette question d'une manière constructive pour arriver à des solutions. Et vous en avez suggéré certaines, par exemple, l'idée d'avoir une planification de la production agricole à une échelle plus globale, ce qui éviterait aussi certains problèmes de gaspillage, évidemment. Et aussi, et ça, c'est un autre thème qui me tient vraiment à cœur, c'est cette question de la distribution de la marge le long de la chaîne de valeur. Je crois qu'il y a l'exemple qui a été donné pour le café. On les a là, on les connaît, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais comme vous l'avez très bien dit, la pression est que le prix final augmente pour le consommateur, mais la marge du producteur diminue, ce qui est un petit peu illogique, mais semble logique pour certains acteurs.
L'exemple du café dont parle François Pitou vient de Lloyd C. Day, de l'Institut nord-américain de coopération en agriculture.
A cup of coffee that you're drinking there today, the waiter who you tipped made 25 times the amount that the farmer made. So think about that the next time you buy something. The farmer's not getting money for what he's producing, and he's working hard. He's taking care of his family. He's taking care of all the people that come to harvest that coffee.
Monsieur D rappelle que le pourboire à celle ou celui qui vous a servi un café représente 25 fois plus que ce qui revient à la personne qui a cultivé ce même café. Le colloque était organisé par l'Université Laval, le gouvernement du Québec et son ministère des Relations internationales et de la Francophonie, avec de nombreuses collaborations, dont celle de l'Institut de la Francophonie pour le développement durable. Tous les intervenants qui maîtrisent le français se sont exprimés en français. Une exception notoire, la directrice du Fonds de recherche Nature et technologie du Québec, Janice Bailey, pourtant parfaite bilingue, a choisi, elle, de parler anglais.
We need to eliminate the concept that the farmers are the problem causing the environmental change crisis. So that's something that we need to do collectively. We need to remove this weight from the shoulders of the farmers, and we need to facilitate the farmers' ability of being part of the solution. This is where I think research collaboration is.
La menace à la biodiversité n'est pas la responsabilité des seuls agriculteurs. On doit les aider financièrement et les amener à de nouvelles pratiques, affirme Madame Bailey. On est revenu sur l'affirmation d'Ismaan El-Wafi à l'effet qu'il y a suffisamment d'aliments, peut-être trop d'aliments, à travers la planète.
Jean-Louis Rastoin, professeur à l'Institut agronomique de Montpellier et à la chaire UNESCO Alimentation du Monde. J'ai été très impressionné par ce qu'ont dit d'abord Madame El-Wafi et ensuite Marcel Groslot. Madame El-Wafi a eu le courage de nous dire qu'il y a trop d'alimentation. Il y a 3000 kilocalories par tête d'habitants et par jour de produits dans le monde aujourd'hui. C'est énorme. Alors le gros problème, c'est la disparité. Il y en a qui meurent de faim et il y en a qui sont à 4000 kilocalories. Donc il faut absolument réguler tout ça. Et la priorité absolue, c'est la souveraineté alimentaire indiquée par Via Campesina. Il faut augmenter l'autonomie alimentaire dans les pays qui ne produisent pas assez. Alors ça a un impact, Marcel a eu le courage de le dire, ça a un impact sur le commerce mondial, c'est évident. Et il faut aller... Alors il parle de planification économique, je crois que c'est très, très courageux, évidemment. Mais parlons plutôt de régulation économique. Moins de marché, plus d'intervention étatique. On a besoin des instruments de régulation des marchés.
Et Marcel Groslot soumettait au colloque la proposition issue des travaux de la chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire.
L'agriculteur et l'agriculture sont les plus vulnérables de la chaîne alimentaire. On est contraint par les saisons. On travaille donc avec la nature, les saisons. Contraints par les cycles animaux, et on met en marché des produits périssables qui ont besoin d'être transformés rapidement. Donc, notre pouvoir de négociation dans la filière alimentaire est très faible. L'agriculture est mal adaptée dans une économie de marché, parce qu'on n'a pas de pouvoir, on ne peut pas cesser la production, on ne peut pas ralentir la production, on ne peut pas rapidement accélérer la production quand ça serait profitable. Donc, on est vulnérable. Les forces du marché sont impitoyables pour les agriculteurs. Ce que la chaire de recherche a étudié, c'est la possibilité d'une convention nourrir durablement où on tient compte de ces phénomènes-là, réels, scientifiques et naturels, où on souhaite assurer la sécurité alimentaire, donc des aliments de qualité et en quantité suffisante pour tous, où on veut que chaque pays soit responsable d'abord d'alimenter sa population et où le commerce devient un outil de sécurité alimentaire plutôt qu'une fin en soi, ouais. Où on assure la pérennité des entreprises en s'assurant une place pour les jeunes. Puis on a un outil qui nous permettrait de discuter de ces solutions-là. Ça s'appelle la Convention Nourrir l'humanité durablement. Et est-ce que ça devrait être intégré à la Convention sur la biodiversité? Est-ce que c'est une révision des règles de l'OMC? Est-ce que la FAO devrait avoir un rôle accru en ayant en son sein une convention de ce type? Toutes les possibilités sont ouvertes. Mais il faut aborder la question alimentaire dans son ensemble et non pas d'un point de vue uniquement économique.
Le colloque de Québec aura assurément des suites avec de nouvelles discussions en préparation, en particulier avec des équipes de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Mais pour l'heure, Geneviève Parent de la chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire est coprésidente du colloque. Ses missions accomplies.
Nous sommes reconnaissants des échanges que vous avez permis de faire naître ici. Je pense qu'on a atteint nos objectifs. Le premier de ces objectifs-là était d'offrir un espace où on pourrait réellement avoir une discussion constructive avec une majorité de participants, agriculteurs et agricultrices, et on y est parvenu. Dans la salle en présentiel, il y avait plus de 30 % d'agriculteurs et d'agricultrices présents provenant de 39 pays différents. Je remercie donc tous les participants, mais en particulier ceux qui ont dû faire des démarches parfois ardues, longues, pour obtenir les visas pour être ici. Encore une fois, merci infiniment de cette ténacité et merci à tous les agriculteurs et agriculteurs de nous avoir fait confiance et d'être venus, sûrement avec un peu de réticence au départ, mais d'être venus et de vous être prêtés à cet exercice très important qui était de discuter avec nous, de faire entendre vos défis, vos bons coups et vos pistes de solutions. Merci beaucoup.
Ici Lionel Levac. On a fait place aux agriculteurs. Maintenant, notaient plusieurs participants, il faudra parler davantage aux consommateurs et discuter avec les gens de l'industrie et du commerce alimentaire. Au revoir.
Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.